Et par là même la fin de Moïse. Aujourd'hui au chapitre 31, nous allons voir comment Josué va succéder à Moïse. Lisons ensemble à partir du verset 1 du chapitre 31. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a encore derrière, c'est page 216 au début de la Bible. Moïse alla dire ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus aller et venir, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. C'est son anniversaire. Il doit avoir plus de bougies que de gâteaux. 120 ans. Ça peut se voir. On a vu Jeanne Calment, il y a quelques années, mourir à 121 ans, je crois. Ouais. Mais il leur dit, j'ai 120 ans et je vais plus pouvoir aller et venir. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à la liberté de mouvement que nous pouvons avoir. Vous qui êtes ici, vous avez eu le privilège de pouvoir vous lever de votre lit, de marcher, de prendre peut-être votre voiture, de venir en vélo ou à pied. Quel privilège que d'être un peu autonome. Et souvent, on se plaint qu'on n'a pas de vélo, si on a un vélo, qu'on n'a pas de voiture. Je me souviens, ma mère, qui était déjà bien handicapée, était venue nous voir aux États-Unis. À l'époque, je faisais pas mal de jogging. Quelque part, elle avait voulu venir avec moi pour s'asseoir pendant que je courais autour du lac. Quelque part, j'étais mal à l'aise. Je pensais quelle doit être sa douleur de voir qu'elle ne peut plus bouger et que moi, je peux encore bouger. J'ai eu le même sentiment il y a 2 jours avec ma sœur, Danielle. Qui ne peut plus que parcourir quelques pas maintenant avec un cancer avancé. Et ça, c'est pour nous encourager à être satisfaits de notre sort. D'apprécier tout ce que le Seigneur nous donne. Et toutes ces choses qu'il nous donne, de les lui remettre pour sa gloire. S'il nous a donné la liberté de mouvement, peut-être que nous pouvons l'utiliser pour aller encourager des personnes qui sont handicapées. Ça me faisait aussi rappeler Jésus qui disait à Pierre dans Jean 21:18, je te le dis, quand tu étais plus jeune, en vérité, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Là aussi, Pierre devait profiter de sa liberté pour servir le Seigneur. Un jour, il n'aurait plus cette liberté, il pourrait encore glorifier le Seigneur.
Again, Peter was referring to use what he had before by the Lord. There was time
Et apparemment, dans le cas de Moïse, c'est pas vraiment son problème, c'est pas qu'il n'a plus l'énergie ou la faculté de se déplacer. Il ne devait pas être en super forme, mais un peu plus loin, dans le Deutéronome 34,7, il est dit que sa vue n'était pas éteinte, il avait encore sa vision, et sa vigueur n'avait pas disparu. Et en fait, quand il dit « je ne pourrais plus aller et venir », je pense qu'il faisait plutôt allusion au fait qu'il ne pouvait plus entrer et sortir du tabernacle, c'est-à-dire continuer dans son ministère de prêtre. Et la raison, c'est que l'Éternel lui avait dit « tu ne passeras pas ce Jourdain », il était sous le coup d'une sanction divine. Et en fait, vous vous souvenez, dans le livre des Nombres, on avait vu que l'Éternel avait dit à Moïse de frapper le rocher pour que l'eau jaillisse du rocher. Il l'avait fait une fois. Puis le peuple s'était remis à murmurer, à rouspéter. Et là, Moïse s'était mis un peu en colère contre eux. Et il avait frappé deux fois le rocher. Alors que l'Éternel lui avait dit simplement de parler au rocher. Alors on sait que la première fois où il avait frappé le rocher, on sait que le rocher c'est une représentation spirituelle de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ a eu besoin d'être offert en sacrifice une seule fois. Il a été frappé une fois. Et la vie éternelle est sortie de son côté. Nous avons accès à cette vie éternelle par la foi seulement. Il n'y a pas besoin de resacrifier Jésus-Christ. Donc en quelque sorte, en frappant deux fois, Moïse gâchait un peu l'illustration biblique. Nous avions dit qu'en fait, si l'Éternel l'avait puni en lui disant qu'il n'entrerait pas en terre promise, c'était pas parce qu'il avait gâché cette illustration. Non, ce qui était plus grave, c'est qu'il avait été un mauvais témoin de Dieu. Il avait projeté une mauvaise image de la réalité de Dieu. Il avait projeté l'image d'un Dieu qui pouvait en avoir ras-le-bol, comme on dit familièrement. Un Dieu qui se fâchait après un certain temps. Un Dieu qui ne pouvait pas exercer de grâce. Je crois que c'est à cause de cette fausse représentation de la grâce infinie de Dieu que l'Éternel a ainsi sévèrement puni Moïse. Mais ce qui est beau dans la réaction de Moïse, c'est qu'on sent qu'il a totalement accepté cette sanction. Mm-hmm. L'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. On sait que Dieu a permis à Moïse d'entrer en terre promise plus tard. Lorsqu'il est apparu avec Élie et Jésus sur le mont de la Transfiguration, Dieu lui a permis de fouler le sol de cette terre promise. Et donc, Moïse, qui a un exemple même du pasteur qui a tellement d'amour pour son peuple, excepté pour ce mouvement de colère, il est avec cette nouvelle génération à la veille d'entrer en terre promise. Il veut encourager ce peuple. Et il leur dit, l'Éternel ton Dieu, verset 3, passera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu les déposséderas. Josué passera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Nous avions vu en étudiant Deutéronome 20 le début. Que c'est Dieu qui se bat pour nous. Il nous envoie au combat, mais il va devant nous. Chapitre 20, versets 1 à 4. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Verset 4 de ce même chapitre 20, l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis afin de vous sauver. Et aujourd'hui, vous êtes sans doute dans plein milieu de quelques combats. Si vous ne savez pas, je vous l'apprends. Il y a un combat spirituel pour vos âmes. Mais vous pouvez vous reposer dans le fait que Jésus-Christ se bat pour vous. Dieu est dans le combat contre l'ennemi. Il leur rappelle donc que Dieu est avec eux. Et puis il leur rappelle que quelqu'un va le remplacer, lui Moïse. Et on peut imaginer que pour le peuple qui va enfin entrer dans ce pays promis, ils doivent se dire, c'est vraiment pas le moment, Moïse, de nous laisser tomber. Vous vous souvenez la première fois qu'on entend parler de Josué qui va lui succéder? C'est lorsque il doit combattre contre Amalek. Amalek, un roi cananéen, qui représentait aussi en type biblique, en symbole biblique, notre vieille nature de pécheur. Et Josué était en bas dans la vallée en train de combattre contre Amalek. Et Moïse, lui, priait pour la victoire. Il était tellement fatigué de lever les mains qu'il nous montre encore une fois que lever les mains, ce n'est pas quelque chose que seuls certains groupes extrêmes peuvent faire. Sentez-vous libre de prier en levant les mains, chanter en levant les mains. Moïse était tellement fatigué que Aaron et Hur sont venus pour lui soutenir les bras. Et donc, le peuple pensait, non, on sait que Josué, lui, c'est un bon général, il serait bien pour la bataille contre ces habitants de la terre promise. Et Moïse, toi, tu es nécessaire, il faut que tu sois là pour prier parce que tu nous avais amené la victoire lorsque tu priais. Donc on va voir qu'il il les rassure en disant Josué est celui que Dieu a voulu. Quelqu'un a dit le travail pour le royaume de Dieu ne change pas. Le travail ne change pas, ce sont les travailleurs, les ouvriers qui changent. Et la semaine dernière, je rappelais que quelqu'un parlant de ce thème disait que maintenant que nous sommes vivants, c'est notre tour d'être les ouvriers du Seigneur. It's our turn. Mm-hmm. Une chose importante à réaliser, que c'est pas Josué qui s'est proclamé successeur de Moïse. Je crois que c'est très important dans la vie chrétienne de laisser les autres dire du bien de vous. S'il y a des bonnes choses à dire. Et qu'il est très important de ne pas chercher les positions, rechercher les titres, les positions. C'est le Seigneur qui doit vous nommer. Certains peuvent penser qu'en allant en école biblique, automatiquement, ils sont destinés à devenir missionnaires, pasteurs. La formation de pasteur, la formation théologique, la formation biblique est très importante. Mais elle doit intervenir en réponse à un appel que vous sentez sur votre vie. Il faut d'abord qu'il y ait l'appel de Dieu sur votre vie. Et ensuite, tout faire pour se préparer pour servir le Seigneur selon cet appel. Donnez aussi le temps à Dieu de vous préparer. Et Josué était un bon exemple de ça. Il avait longtemps servi Moïse avec fidélité, avec toute son énergie. Il voulait servir Dieu et comme il savait que Moïse servait Dieu, il pouvait servir Moïse. Vous vous souvenez que c'est lui et un autre espion, Caleb, qui était entré en terre promise pour repérer un peu les lieux. et qu'en fait il y avait 10 autres espions qui disaient c'est trop difficile, on ne peut pas y arriver. Il y a des grandes villes fortifiées. Vis-à-vis, il y a des géants dans la terre promise. On est comme des sauterelles par rapport à eux. On avait dit qu'en fait, ces espions, ils regardaient aux difficultés. Alors que Caleb et Josué, eux, regardaient au Seigneur. Et nous aussi, nous sommes dans une situation où, pour annoncer l'Évangile aux gens qui nous entourent, nous pouvons dire il y a des villes fortifiées. Vis-à-vis des médias du monde, on est comme des punaises, des fourmis. Même pas des sauterelles. On pourrait être très déprimé. Ou on peut regarder au Seigneur qui veut que chaque homme soit sauvé. Et avoir confiance qu'avec lui, tout est possible. Amen. Et c'est vrai que Moïse peut-être aurait nommé Caleb plutôt que Josué. Mais c'est Josué qui passera devant toi, le peuple d'Israël, comme l'Éternel l'a dit, comme l'Éternel l'a décidé. Verset 4, il les réconforte en leur rappelant leur victoire en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. Pour ceux qui n'étaient pas là, on avait comparé ces victoires contre le roi de Sion, le roi Sion et le roi Og, comme les victoires que le peuple d'Israël était censé se rappeler sans arrêt pour avoir confiance. Et en France, maintenant, chaque fois qu'il y a un événement sportif, on essaie de rappeler aux sportifs qu'on a gagné la Coupe du Monde, on a gagné la Coupe d'Europe, on peut gagner. Le Seigneur veut que nous nous rappelions les victoires qu'il nous a aidés à remporter dans notre vie. Pour nous donner confiance, il peut le faire encore. Peut-être nous sommes arrivés à nous débarrasser d'une attitude, d'un péché. Rappelons-nous de la victoire qu'il nous a donnée, et c'est une promesse des victoires à venir. Verset 5, l'Éternel vous les livrera. Donc c'est l'Éternel qui va faire le travail. Mais vous agirez à leur égard selon tous les commandements que je vous ai donnés. Fortifiez. Donc ça, c'était une allusion en fait qu'ils ne devaient pas garder des ressources. Ils devaient vouer à l'interdit, c'est-à-dire détruire totalement leurs ennemis. On a expliqué qu'en fait, c'était parce que s'il n'y avait pas cette destruction, c'était tolérer le péché, la présence du péché qui, tôt ou tard, les mènerait à l'échec. Verset 6, il leur dit « Fortifiez-vous et prenez courage ». Soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Fortifiez-vous et prenez courage, fortifie-toi et prends courage. C'est une expression que nous allons retrouver plusieurs fois dans Deutéronome et dans le début de Josué. Pourquoi est-ce que c'est répété aussi souvent? Parce que, comme nous l'avons déjà souligné, nous avons une tendance naturelle à avoir peur. Certains disent qu'on peut trouver 365 instructions dans la Bible qui nous disent de ne pas avoir peur, une pour chaque journée de l'année. Il y a un magazine, dans un magazine récent, j'ai lu une liste de près de 300 ou 500 différents types de peurs. Oui. On appelle des phobies, du grec phobos, la peur. Il y a la arachnophobia. Arachnophobie, c'est la peur des araignées. Il y a l'agoraphobie, c'est la peur d'être seul dans un espace découvert, au milieu d'une place, tout seul. Rassurez-vous, on ne va pas faire la liste. Mais qui n'a pas eu peur de la mort? De la mort d'un être cher? Qui a peur d'être malade, tomber malade? Oui, non, qui a peur de perdre son emploi? Qui a peur de se faire attaquer dans la rue? Surtout si on habite certains quartiers. Peur de voir sa voiture brûler. Perdre toutes ses ressources. Se retrouver SDF. Satan se régale de nos peurs. L'apôtre Paul disait à son disciple Timothée, dans 2 Timothée 1:7, ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est intéressant de savoir que ce genre de peurs dont je parlais, ce n'est pas des peurs qui viennent de Dieu. Et lorsqu'on voit dans ce verset que Paul, inspiré par l'Esprit Saint, donne à Timothée, ce n'est pas un esprit de peur, mais au contraire un esprit de force, d'amour, de sagesse. On peut méditer un peu et voir qu'en fait, Paul par cela, Dieu par cela, fait la différence entre la peur et la force. Si on a peur, on ne peut pas être fort. Ça vous arrivez d'avoir tellement peur que vous sentez c'est impossible de bouger. Ou si on a peur, alors on hésite, on ne prend pas de décision, on n'est pas fort. La peur est opposée à l'amour. On a déjà aussi parlé du fait qu'il y a, ce sont deux motivations très puissantes, celle de la peur ou celle de l'amour. Les résultats sont complètement opposés. Pardonnez-moi pour ceux qui ont déjà entendu l'illustration, mais quand je paye mes impôts, c'est pas par amour. C'est pas, je me dis, oh, Marianne va être tellement contente. Elle a été gentille cette année, je vais en rajouter un petit peu plus. Non, la République, j'en ai rien à faire, franchement. Surtout l'idole de la République. Mais, trêve de plaisanterie, je vais donner juste le minimum par la peur. Certains en payent beaucoup d'argent pour savoir quel est le strict minimum qu'ils peuvent payer sans avoir peur des représailles légales. Si Nancy me demande un peu d'argent, attention, je ne vais pas être là. À combien tu vas acheter une baguette à 4,50? Quelqu'un a fait une très belle illustration en disant que Dieu veut nous faire vivre dans la maison de l'amour. Le diable, lui, veut que nous restions dans la maison de la peur. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Ne me répondez pas, mais pensez-y. Sachez que ça ne vient pas de Dieu. Fortifiez-vous et prenez courage. Verset 6, fortifiez-vous, prenez courage, c'est une décision. Et puis c'est suivi par une révélation, l'Éternel ton Dieu est avec toi. C'est un pasteur John Courson qui fait remarquer que lorsque Jésus marchait sur les eaux et que les disciples pensaient que c'était un fantôme qui venait vers eux, ils étaient pétrifiés de peur. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Première chose, c'est là aussi, il y a une décision de se rassurer. Qui est suivie par une révélation. Dieu est là. Il explique que c'est très important de, par notre volonté, de décider de ne pas avoir peur. Peut-être que vous avez peur de parler de Jésus à vos voisins. Décidez de leur parler. Ah, qu'est-ce que vous avez fait hier matin? Je suis allé au culte. Ah bon? Pourquoi faire? pour apprendre à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ, à vivre avec lui. Il y a besoin de cette décision, se jeter un peu à l'eau et réaliser que Dieu va être avec vous. C'est lui qui va inspirer vos paroles. Fortifiez-vous et prenez courage. Ça s'adressait aux Israélites de Deutéronome. Dieu nous le dit aujourd'hui aussi. Fortifie-toi et prends courage. Il le dit d'abord au peuple d'Israël, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en assurera l'héritage. » Verset 8, « L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. » Dans la lettre aux Hébreux, ce même passage est repris dans le contexte des ressources financières. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, Hébreux 13, 5, contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Versets 9 à 13, Moïse ordonne que la loi soit lue tous les 7 ans. Publiquement. Tu rassembleras, verset 12, à l'occasion de la fête des Huttes, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les migrants qui résideront avec toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous avez peut-être remarqué que j'ai lu que ils devaient apprendre à craindre l'Éternel. Donc, lorsque je disais que les peurs ne venaient pas de Dieu, il faut ici faire l'exception, il y a une bonne peur dans nos vies. C'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, la peur de Dieu. C'est-à-dire, c'est un respect pour sa sainteté, pour sa puissance, pour sa souveraineté. La crainte de Dieu, elle s'oppose souvent à la crainte des hommes. Ça peut être un sujet, une question à se poser lorsqu'on a des décisions à prendre. Est-ce que je suis prêt à craindre Dieu, à craindre l'Éternel? Est-ce que ma décision va être une réflexion de ma crainte de l'Éternel ou de la crainte des hommes? Paul disait, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je recherche? Galates 1, 10. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La crainte de l'Éternel, il suffit de lire l'Ancien Testament, notamment les psaumes, les proverbes, pour voir qu'elle est la source de grandes bénédictions. Bénédiction. C'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la connaissance. Elle prolonge les jours, elle donne la vie. Elle écarte du mal. Elle mène à la vie. Proverbe 19, 23 nous indique même qu'elle nous aide à bien dormir. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur, si on est animé par la crainte de l'Éternel. Proverbe 22 nous dit que c'est la conséquence de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire, la vie. Ici donc, Moïse invite le peuple à lire la parole en public. L'an dernier, nous avions fait un projet de lire au moins le Nouveau Testament devant Nice Étoile à Pâques. Ça aurait été une façon de lire la parole en public. Et nous devons penser aussi à toutes les autres occasions, les médias, la radio, Internet, la musique. Il faut que nous réalisions que nos contemporains, les gens qui nous entourent, n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Une amie missionnaire qui était ici la semaine dernière, que certains ont rencontré, Chris, après son séjour à Nice, est parti sur Avignon, Narbonne, Bayonne. Et sa réaction, elle a vu l'immoralité. La mixité dans les auberges de jeunesse. Même la mixité dans les douches. Mais ce qui l'a frappé, c'est, elle a dit, ils ne connaissent pas l'Évangile. Hier soir, peut-être qu'il y en a qui ont entendu sur France 3 5 minutes de reportage sur des gens qui passent leurs vacances dans un séminaire, dans un centre de retraite bouddhiste. Et encore une fois, tout ce qu'on entend sur le bouddhisme, c'est très positif. On ne parle jamais des différentes sectes du bouddhisme. Il y a par exemple la Soka Gakkai, qui est une doctrine bouddhiste de prospérité. Mais nos contemporains n'entendent jamais parler de l'Évangile. Lorsqu'on parle de l'Évangile, on parle des sectes, on parle des vieilles cathédrales. Nous devons demander au Seigneur qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Parce que la moisson est abondante. Il faut que nous prions pour faire tache d'huile ici. Il faut prier pour que des ouvriers soient formés. Qu'ils soient formés en allant dans d'autres écoles bibliques, dans des écoles bibliques. Ou même au sein de l'Église. Ne pensez pas que nous sommes ici pour avoir un petit club. Pour se retrouver tous les dimanches, faire des pique-niques et des fois monter à la montagne. On est là pour être utilisé par le Seigneur. On veut que parmi nous, d'autres partent annoncer l'évangile ailleurs. Et à l'époque, Moïse disait, Dieu disait à Moïse, fais lire cette loi au moins tous les 7 ans. Publiquement, tous ensemble. C'est important de se rassembler ensemble. En congrégation, entre guillemets. Certains disent, oh moi les églises c'est fini, il n'y a que des hypocrites. Je lis ma Bible. Je prie mon Dieu. Et je peux dire que votre diable est content. Lire la parole en public. C'est important. Même si des fois tout ce qu'on faisait c'était lire ensemble la parole de Dieu, je crois que ce serait déjà mieux que rien. Ce qu'on fera, prendre un passage et lire la Bible pendant un moment. Lisons la Bible, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le jour où tu vas mourir, approche, appelle Josué et tenez-vous debout dans la tente de la rencontre. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se tenir debout dans la tente de la rencontre. L'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Là, au vu de tout Israël, Dieu approuve le ministère de Josué par sa présence. Puis, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, voici que tu vas mourir, ça c'est pour Moïse, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et rompra mon alliance que j'ai conclue avec lui. C'est une prophétie tragique de l'infidélité d'Israël. Verset 17, en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, je leur cacherai ma face, il sera dévoré, de nombreux malheurs et des détresses l'atteindront, il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint? Et moi, je cacherai totalement ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. C'est tragique quand Dieu semble se cacher de nous. Mais Dieu nous dit dans le Nouveau Testament que si nous nous repentons, si nous venons à lui, nous le trouverons. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas eu l'impression de rencontrer Dieu face à face. Peut-être vous lisez votre Bible et vous priez chaque matin, régulièrement, mais vous sentez que c'est machinal. Il n'y a pas de réalité de présence. Peut-être que Dieu se cache la face de vous en ce moment. Parce que vous vous êtes tourné vers d'autres dieux. Peut-être c'est l'argent, c'est le business. C'est le plaisir. Vous n'avez pas le temps de penser à lui parce que vous pensez à autre chose. Vous avez autre chose qui occupe votre esprit. La façon dont Dieu nous reprend, c'est en nous donnant ce sentiment de son absence. Verset 19, il demande à Moïse d'écrire un cantique. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche, que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites, car je ferai entrer ce peuple dans le territoire que j'ai juré à ses pères de lui donner, qui découle de lait et de miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et leur rendra un culte. Il m'outragera et rompra mon alliance. Quand alors de nombreux malheurs et des détresses l'atteindront, ce cantique qui ne sera pas oublié de sa descendance déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Donc Moïse, Dieu dit à Moïse et à Josué que Israël va être infidèle. Que malgré les victoires que Dieu va les aider à remporter, ils vont se tourner vers d'autres dieux. Et verset 23, l'Éternel dit encore à Josué, c'est maintenant l'Éternel qui parle à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je ferai entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner, je serai moi-même avec toi. Josué avait besoin d'être encouragé. Non seulement il devait assumer la succession de Moïse, qui ne devait pas être une petite tâche, c'était impressionnant. Mais quelque part, Dieu lui disait qu'en fait, son entreprise allait mal finir. C'est un peu comme si on vous disait, vous allez prendre la suite de Bill Gates, mais Microsoft va faire faillite. Chouette. Super. Verset 24, Moïse remet la loi aux Lévites. Parce que c'est les 10 commandements et tous les commentaires comme ils sont rapportés dans Deutéronome. Et Moïse continue verset 29, « Je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez honteusement et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur vous arrivera dans les temps à venir quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Le verset 30, c'est l'introduction de ce cantique de Moïse que nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine. On verra le châtiment de Dieu, mais aussi sa fidélité, même dans l'épreuve du châtiment. Moïse ne va pas pouvoir les aider à traverser le Jourdain. C'est Josué qui va les emmener à travers le Jourdain. Vous savez, on a déjà parlé de ça, que dans l'histoire de la Bible, l'histoire de la nation d'Israël, ça représente un peu l'histoire du chrétien. Il y a d'abord la libération de l'esclavage en Égypte. C'est lorsque l'on vient à Christ et qu'on est libéré de la puissance du péché. Plutôt de la pénalité, on n'est plus sous le coup du jugement. On voit qu'on peut faire confiance à Dieu, on le voit à l'œuvre. On reçoit des bénédictions. Puis il y a une période de traversée du désert. On avance, des fois on régresse dans notre croissance spirituelle. Mais il y a toujours un moment où Dieu nous amène au bord du Jourdain. En termes de symbole dans la Bible, le Jourdain représente la mort. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens cantiques, notamment des négros spirituels, où c'est un symbole de la mort physique. Et c'est vrai que ça peut être de très beaux chants, des chants qui sont très édifiants. Mais dire que le Jourdain, ça représente la mort physique, c'est une mauvaise théologie. Le Jourdain, ça représente la mort de notre vieil homme. La mort de notre vieille nature de pécheur. C'est... Je traverse le Jourdain lorsque je peux dire avec Paul, Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est lorsque j'abandonne mes ambitions personnelles, mes désirs personnels, et que je m'abandonne complètement à Jésus en disant qu'il soit vraiment le Seigneur de ma vie. Et Chuck Smith, de Calvary Chapel, dit qu'en fait, le Jourdain, c'est la rivière qui sépare le chapitre 7 de Romains du chapitre 8 de Romains. On n'a pas le temps d'étudier en détail, mais sachez que dans le chapitre 7, Paul n'en peut plus. Il dit qu'il est malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Je vois bien qu'il y a du péché dans ma vie. Quand je veux faire le bien, je ne le fais pas. Quand je veux éviter le mal, je le fais. Malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Et là, c'est parce qu'il regarde à lui-même, à ses ressources, il s'aperçoit qu'en lui-même, il ne peut pas faire le bien, il ne peut pas respecter les 10 commandements. Mais il passe ce Jourdain, cette mort à lui-même, et au chapitre 8, il dit « Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon, non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Au lieu d'être désespéré, il dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il dit « Qui va nous séparer de l'amour de Dieu, de Christ ? Personne ne peut le faire. » C'est intéressant de voir qu'en fait, c'est ce passage de notre vie égoïste, notre vie de pécheur. À cette vie selon l'Esprit qui nous donne vraiment la victoire. Ce sont les choses de l'Esprit qui nous intéressent maintenant. Je peux ressentir la présence de Dieu dans ma vie. Je suis plein de joie. Je vois des bénédictions autour de moi. Cette victoire en Jésus-Christ, la loi ne peut pas nous la donner. Vous pouvez essayer autant que vous voulez de suivre à la lettre les 10 commandements, je vous préviens que vous allez être très malheureux. C'est la grâce qui peut nous faire entrer en terre promise de victoire. Quand je renonce à mes propres efforts et que je dis à Christ de venir dans ma vie, que que je me considère comme mort au péché, comme crucifié avec Christ, alors je peux entrer dans cette terre promise de victoire et de joie en Dieu. Et si Dieu n'a pas permis à Moïse de passer le Jourdain, c'est quelque part aussi parce que Moïse représente la loi. Et la loi, elle ne peut nous amener qu'au bout du Jourdain. Josué, en grec, c'est Jésus. Josué, c'est un type, une représentation de Jésus. Et si je marche avec Jésus, il va me faire passer en terre promise. Et c'est ce que l'apôtre Jean, l'évangéliste, nous disait lorsqu'il disait « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean 1, 17. Et nous verrons en étudiant le cantique de Moïse la possibilité aussi de revenir à Christ. Même dans cette vie de victoire, nous allons pouvoir pécher, mais nous allons pouvoir nous repentir. Donc Dieu merci. Dieu a donné à Moïse Josué comme successeur. Dieu merci, Dieu nous donne, après l'Ancien Testament, la loi, le Nouveau Testament et Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, nous voyons bien qu'en nous-mêmes, il n'y a rien de bon. Quand nous regardons en nous-mêmes, Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, c'est être déprimés. Mais Seigneur, nous te rendons gloire lorsque nous regardons.